qui a fait la différence, c'est le jour où j'ai été capable d'oser et que j'arrête d'avoir peur de l'échec, peur de me faire juger et que finalement, du moment où je faisais les choses en étant sûre moi-même de ce que j'avais envie de faire, il pouvait rien m'arriver de négatif.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Carl Lewis, 9 fois champion olympique d'athlétisme et icône du sport, a déclaré un jour « Si vous n'avez pas confiance, vous trouverez toujours un moyen de ne pas gagner ». Il est clair que dans le monde du sport, on laisse très peu de place au doute, souvent synonyme de faiblesse, de manque de mental, et donc bien sûr complètement incompatible avec le sport de haut niveau. Les émotions exacerbées, le manque de confiance en soi ou encore la timidité maladive ne peuvent pas, par essence, être propices à la performance. S'il est vrai que sur le papier, ces caractéristiques peuvent parfois entraver un parcours sportif, elles ne sont pas forcément limitantes. Laura Flip, mon invitée du jour, est arrière droite dans l'équipe de France de handball depuis 2016. Elle est, selon ses termes, timide, diagnostiquée hypersensible et a lutté pendant des années contre un manque cruel de confiance en elle. Mais Laura est également championne d'Europe, championne du monde et championne olympique de handball et aujourd'hui l'une des figures incontournables et leaders de l'équipe de France. Son parcours n'a pas été simple et le sport de haut niveau n'a pas été une évidence pour elle, de par son tempérament, mais elle met aujourd'hui un point d'honneur à montrer que la timidité et l'émotivité peuvent aussi avoir du bon, à condition de savoir comment s'en servir. Salut Laura.
Salut Cléo.
Comment vas-tu?
Bah ça va bien, et toi?
Bah ça va super, merci de m'accueillir chez toi pour enregistrer cet épisode qui était un peu pas forcément prévu, c'est la magie aussi de l'improvisation.
Oui, bah avec plaisir, c'est un plaisir de t'accueillir chez moi, vraiment.
Merci beaucoup. Écoute Laura, je suis toujours très contente de recevoir mes invités, je suis hyper contente de te recevoir, enfin de te recevoir, que tu me reçois finalement, c'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, on peut quand même dire que tu as un palmarès hyper impressionnant, tu as tout gagné en fait, hein. Ça va aller vite, on va pas faire dans la dentelle. Championne d'Europe en 2018, championne du monde en 2017, médaillée d'or en 2021 avec l'équipe de France de handball, c'est pas mal.
C'est assez sympa quand le palmarès, vraiment, avec l'équipe de France, j'ai effectivement tout gagné. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux, à part faire des doublés à droite à gauche. Je dirais pas non, hein, surtout ouais. Avec l'objectif Paris 2024, bien sûr. Et après, il me restera des petits titres à aller chercher en club. La Ligue des Champions, par exemple, je veux bien la récupérer, celle-là aussi, dans mon palmarès.
Toujours plus.
Ah ben, on en veut toujours plus, finalement. Plus on gagne, plus on veut gagner.
Écoute, Laura, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Là, on parle de ton palmarès qui est assez incroyable parce que tu as tout gagné. C'est vrai que c'est un peu le grand chelem, on va dire, dans un sport. Quand tu étais petite, ça, c'était pas forcément quelque chose que tu imaginais, je crois.
Non. Bah alors, être à la lumière quand j'étais petite, c'est tout ce que je fuyais, vraiment. J'étais dans mon coin, la petite timide, au fond de la classe. J'étais toujours la dernière choisie parce que je me cachais. Même en sport. Juste parce que je me cachais, finalement. Pas parce que j'étais pas performante, mais parce qu'en fait... Ben, je voulais être dans aucune équipe, je préférais être assise sur le banc à côté, à regarder les autres parce que j'avais toujours peur de mal faire, j'avais pas du tout confiance en moi.
C'est fou ça, quand on voit le chemin parcouru maintenant, bon, on y reviendra bien évidemment pour comprendre aussi ce processus presque, j'ai envie de dire. Mais petite, c'était le sport, ça t'intéressait d'ailleurs ?
Non, pas tant que ça. Surtout pas le handball, parce que je suis issue d'une famille de handballeurs. Ma maman a joué pendant très longtemps, mon papa entraîné, et du coup, j'avais vraiment pas envie de faire du handball. En plus, il fallait être tout le temps en jogging. Pour moi, les joggings, c'était pour les garçons. Je voulais juste être en petite robe, bien habillée. Je ne sais pas si j'avais le style, par contre. Mais en tout cas, être un peu féminine. Pour moi, mettre des joggings à longueur de journée, c'était hors de question. Et finalement, aujourd'hui, je mets que ça.
Comme quoi
on peut changer.
C'est rigolo parce que j'imagine, c'est souvent le cas quand on... Quand y a des sportifs de haut niveau, on lui aura souvent mis le pied à l'étrier dans la famille. Des papas, des mamans qui étaient eux-mêmes sportifs, qui pratiquaient également ce sport-là, ce qui est ton cas. Mmh. Mais pour le coup, eux, ils t'ont jamais forcé ou ils t'ont jamais dit « Ok, Laura, écoute, on est quand même une famille de handballeurs, donc tu vas y aller.
» Non, pas du tout. On m'a rien forcé. En fait, au départ, j'ai commencé le handball juste parce que l'école de hand, c'était ma maman qui les entraînait.
D'accord.
Et c'était le mercredi après-midi. Donc, pour éviter de prendre une nounou, et que vu que mon frère en faisait, elle m'emmenait avec eux aux entraînements. Et puis, au fur et à mesure, je touchais un peu à la balle, je m'entraînais un petit peu. Et même, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au handball de la main droite, alors que je suis gauchère.
Okay.
Parce que je faisais finalement comme tout le monde, mais ma maman ne me faisait pas attention à moi parce que je ne m'entraînais pas vraiment. Mais sauf que tout le monde prenait la main droite, donc j'ai pris la main droite. Et puis,
en mimétisme
Exactement. Et puis au fur et à mesure des années, quand mes parents se sont rendus compte de ça et que j'ai continué un peu à faire du hand et que j'ai commencé à m'y intéresser parce que j'avais des copines et que c'était cool, ça devenait sympa... Mes parents m'ont dit, mais t'es gauchère dans la vie de tous les jours, tu vas pas utiliser ta main droite au handball, t'as rien compris, toi. Et en fait, c'est la seule chose qui m'ont un peu forcé, entre guillemets.
Conseil.
Oui, voilà, c'était plus un conseil parce qu'il y avait moins de gauchères que de droitières. Ils m'ont dit, non, t'es gauchère dans la vie de tous les jours, prends ta main gauche au handball, tu verras, ça te sera plus utile.
Mais du coup, comment t'es restée au hand? Parce que quand on t'écoute, on a l'impression que t'y allais un peu parce que t'avais rien de mieux à faire à ce moment-là. Et c'est le sport t'a plu? Qu'est-ce qui t'a fait rester dans ce sport-là?
Les copines, vraiment. Je me suis fait pas mal de copines dans le milieu du handball. J'avais des filles avec qui j'ai grandi, les enfants d'une des meilleures amies de ma maman, qui faisaient du hand avec moi. Et du coup, c'était cool de se retrouver au fur et à mesure, une à deux fois par semaine. Et donc, j'ai continué là-dedans jusqu'au jour où, en fait, je me voyais plus arrêter. Finalement, ouais. Je me suis un peu... Prise au jeu, je me suis fait de plus en plus de copines et finalement, c'était trop bien de se retrouver à chaque fois, au fur et à mesure un peu plus que deux fois par semaine pour en arriver à en faire tous les jours.
Au final, tu disais que tu étais une petite fille timide. Finalement, c'est quand même l'aspect sociabilisation qui t'a fait rester.
Oui, je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis de m'ouvrir. En fait, c'est le handball, c'est les rencontres avec les autres et aujourd'hui... Je suis reconnaissante finalement de ce que le handball m'a apporté en tant que femme, surtout dans mon développement personnel.
Justement, comment ça se passe quand on est une petite fille timide, réservée, qui n'a pas forcément envie d'aller vers les autres ou qui a peur aussi d'aller vers les autres, quand on se retrouve dans une équipe de hand où tu es quand même un petit peu obligée de t'imposer. Et quand tu es petite et que tu n'as pas encore le recul nécessaire et la maturité nécessaire pour le faire, ça se passe comment?
J'avais l'impression au bout d'un moment que tout se faisait naturellement en fait, dans le handball, que quand je jouais au hand, je pouvais être quelqu'un d'autre. Je pouvais complètement être libérée parce que finalement, ce qui me dérange et me dérange toujours aujourd'hui, c'est les conversations avec les autres, c'est devoir échanger. Mais finalement, les gens me regardent jouer au handball, cela me dérange pas du tout. C'est vraiment c'est l'échange, le contact avec les autres. Et finalement, dans une équipe, quand on a 12 ans, c'est tous des copines et les échanges sont naturels. Et en fait, je pouvais m'exprimer pleinement quand je jouais au hand et j'avais aucun frein. Je pouvais être la personne dont j'avais vraiment envie d'être. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir aussi à l'extérieur. C'est justement de me rendre compte que sur un terrain de hand, je pouvais faire tout ce dont je rêvais de faire, m'exprimer comme j'en avais envie.
Tu t'es rendu compte assez vite que c'était ton exutoire?
Ouais, je pense. Et j'ai cette image en BTS, j'ai dû passer ma soutenance de stage devant trois jurys. J'étais en panique totale. Je n'osais pas parler. Alors, et c'était très drôle parce que dans le jury, il y avait un entraîneur de handball qui me connaissait. Ouais. Et très vite, il m'a dit « Mais Laura, t'es capable de jouer devant 5000 personnes, mais là, de parler devant 3 personnes, ça te stresse ?» J'ai dit « Ben, c'est exactement ça, mais j'ai pas besoin de parler quand je joue au handball. Ouais. C'est mon corps qui fait tout seul. » Et en fait, cette remarque m'a marquée parce que je me suis dit « Mais c'est exactement ça. » Et vraiment, le moment où je suis sur un terrain de handball, je peux être pleinement moi-même et sans avoir peur du regard des autres, même si y a toujours le stress de la contre-performance et du coup, on se fera juger. Mais je peux m'exprimer comme j'en ai envie et comme je sens que c'est bien pour moi.
Mais c'est vraiment ça, tu dis m'exprimer, c'était ton moyen d'expression. Oui,
exactement.
Complètement. Est-ce que quand tu as continué à faire du hand et que tu t'es rendu compte, ou on s'est rendu compte peut-être, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais que tu avais des vraies capacités, cet aspect de ta personnalité, ça a pu être un peu bloquant ?
Non, ça n'a pas forcément bloqué. Enfin, si, quand même, moi, je ne vais pas... Parce que forcément... Voilà, j'avais des qualités physiques. Je faisais partie des filles qui couraient vite, qui sautaient relativement haut. Donc, j'ai très vite pu me débrouiller relativement bien dans le handball. Mais après, le problème, c'était la confiance en moi. Quand je ratais un tir, quand je me faisais passer en défense, très vite, je baissais les bras. Très vite, je me disais, mais je ne suis pas faite pour ça. Ce n'est pas possible, je n'y arriverai pas. Et c'est vrai que c'est des choses qui m'ont suivie pendant très très longtemps dans ma carrière, jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller me faire aider, entre guillemets, voir un préparateur mental pour justement passer au-dessus de ça, parce que je savais qu'aujourd'hui, ça allait être un frein pour pouvoir avancer dans ma carrière et pouvoir aller au plus haut niveau, finalement, de ce sport.
Ça s'est passé comment, ce switch ? T'avais quel âge ? Enfin,
C'est arrivé assez tard. C'est arrivé juste après la prépa des Jeux Olympiques en 2016, où j'ai été convoquée pour la première fois en équipe de France. Et là où Olivier m'a dit « Voilà, t'es pas sélectionnée pour les Jeux Olympiques ». Et ça a été un déclic à ce moment-là. Je me suis dit « Mais d'avoir goûté à ça, d'avoir goûté à l'équipe de France, d'avoir vu toutes ces filles que je regardais jusque-là à la télé », je me suis dit « Mais... moi aussi, j'ai envie de faire partie de cette équipe, partie de ces rêves, en fait. » Et je me suis dit, il faut que je change. Aujourd'hui, j'ai les qualités pour y arriver, mais je n'ai pas le mental pour réussir à performer suffisamment. Donc, il faut que je change ça. Donc, j'ai travaillé parce que, bon, il fallait aussi que je progresse encore sur le terrain. Mais très vite, j'ai fait appel à un préparateur mental pour justement... comprendre ce qui se passait, pourquoi dès que je ratais quelque chose, je pensais que j'étais nulle et que je méritais pas ma place. Donc je me suis battue pour passer au-dessus de ça. Ça a pas été facile tous les jours parce que quelque chose qui est enfoui au fond de soi, c'est pas forcément évident de réussir à lutter contre. Mais je pense que j'ai pas mal réussi. Donc je suis très contente pour ça. Et même si ça a été très compliqué par moments, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai quand même confiance en moi.
Tu le sais ou tu as senti effectivement que cet aspect mental, psychologique, en 2016 pour la sélection pour les Jeux Olympiques, c'était vraiment ce qui t'avait fait défaut et c'est en partie pour ça qu'Olivier ne t'avait pas sélectionné ?
Je me le suis dit parce que en fait, j'ai réussi à me rendre compte que pendant les entraînements, j'étais toujours... à l'écart par rapport à d'autres filles qui, on va dire, se montraient beaucoup plus, qui osaient se mettre en avant
ouais.
entre guillemets, et que moi, en fait, finalement, j'étais toujours là où pour pas déranger.
Dans un petit
coin. Je me mettais là où il fallait, et en fait, je savais que c'était un problème entre guillemets mental
de confiance
pour me mettre un peu plus en avant et montrer que je mérite ma place et que je veux tout autant qu'une autre.
T'as la hargne, quoi. Enfin que...
C'est ça. Et en fait, j'avais la hargne, mais j'arrivais pas à le montrer. Donc, on pensait que voilà, j'étais là et que j'allais rien dire. Et voilà. Donc, c'est vrai que j'ai voulu montrer que voilà, moi aussi, je pouvais avoir ma chance et je méritais d'être en équipe de France.
Comment t'as pris les choses à bras le corps ? Parce que c'est compliqué. Je veux dire, tu le disais, la timidité, le manque de confiance en soi, c'est quelque chose que t'avais depuis que t'étais toute petite. comment on travaille là-dessus? Parce que c'est ancré en toi, quoi, depuis tellement longtemps.
Je ne sais pas comment le préparateur mental a fait, mais il travaillait surtout par l'hypnose. Et je suis très, très réceptive à l'hypnose. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Il m'a fait de l'hypnose consciente. Et c'est vrai que je réalisais ce qui se passait sans pouvoir décider consciemment ce qui se passait. Et donc, j'ai vu des choses assez impressionnantes. Pour donner un exemple, j'étais assise sur une chaise avec les bras le long du corps. Et il m'a dit, au niveau du bras droit, tu as un panier avec toutes les choses négatives que tu penses de toi. Et au niveau de ton bras gauche, tout ce que tu penses positif. Et du coup, il me dit, maintenant, tu te laisses aller au poids des paniers. Ben, j'ai failli tomber de la chaise côté droit et j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais c'est pas possible de subir tout ça au quotidien, d'avoir ça sur les épaules tout le temps, de penser autant de choses négatives de soi. Et je me suis dit, non, mais il faut changer ça. Et en fait, avec le travail, se rendre compte que, ben non, je suis pas plus nulle qu'une autre. Je mérite ce qui m'arrive et j'ai travaillé pour. Et c'est vrai que j'ai pris conscience de tout ça. Ça m'a mis un peu une claque parce que je pensais pas que c'était aussi fort et aussi profond. Et finalement, j'ai appris à me construire autrement.
Et c'est vrai, on se dit, le fait de performer dans un sport au fur et à mesure, alors quand t'es petite, forcément, tu te dis pas forcément que tu vas finir professionnelle en hand, mais de voir que que t'étais bonne, que tu gagnais des matchs, que les entraîneurs étaient fiers de toi. Tout ça, ça t'a pas servi justement dans ce cheminement-là ?
Si, forcément, ça m'a beaucoup aidée, particulièrement un entraîneur, l'entraîneur que j'ai rejoint à Paris, Yacine Messaoudi, qui m'a beaucoup accompagnée, que j'ai eu en centre de formation à Metz, qui m'a toujours dit que j'étais une joueuse incroyable, que j'avais la possibilité de jouer sur plusieurs postes qui n'étaient pas donnés à tout le monde. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup, beaucoup soutenue. Je pense aussi à l'entraîneur de France Jeune, Eric Barada, qui m'a dit un jour qu'il fallait que j'ose, en fait, parce que j'avais des qualités incroyables. Mais ce qui me manquait, c'était le déclic d'oser faire les choses, d'oser me montrer. Et en fait, c'est ce qui a fait la différence. C'est le jour où j'ai été capable d'oser, finalement. Je l'ai même en tatouage sur le poignet pour être sûre de le voir tous les jours, finalement. Qu'il faut que j'ose faire les choses et que j'arrête d'avoir peur de l'échec, que j'ai peur de me faire juger et que finalement, du moment où je faisais les choses en étant sûre moi-même de ce que j'avais envie de faire, que ça soit dans le handball, mais aussi dans la vie, il pouvait rien m'arriver de négatif au fond.
T'arrives à identifier ce déclic ?
Non, vraiment. Je pense que ça a été l'accumulation de petites choses. Effectivement, la déception des Jeux, enfin de pas aller aux Jeux Olympiques et l'envie de s'accrocher à faire partie de cette équipe de France, mais aussi tout le travail que j'ai fait avec le préparateur mental. Je pense que ça a été un tout qui m'a permis de franchir en fait le cap de la confiance en soi.
Tu dirais que tu es une nouvelle personne, entre guillemets, ou que tu as appris à faire avec ta personnalité, tes émotions ?
Je pense que j'ai juste appris à me découvrir et à faire avec mes émotions et tout ce que je ressentais au fond de moi. Je suis quelqu'un d'hypersensible. C'est pas forcément facile au quotidien. Je suis capable de pleurer pour un oui ou un non. Je suis très touchée, mais que ça soit sur les émotions positives comme négatives, elles me transpercent. C'est vraiment, des fois, c'est très bien quand c'est positif, quand c'est négatif, c'est très compliqué. Mais j'ai appris à gérer mon hypersensibilité aussi. Donc, tout ça grâce au handball, parce que j'ai été accompagnée et c'est une très bonne chose parce qu'au début, j'ai été très perturbée par toutes ces émotions qui m'arrivaient. Et du côté négatif, forcément, elles font plus mal parce que elles sont plus dures à encaisser. Mais côté, les émotions positives sont aussi parfois très très dures à gérer quand elles sont dans les extrêmes. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait jusqu'au jour où je me suis fait diagnostiquer hypersensible et qu'en fait, finalement, il y en a plein. J'ai appris ça, il y en a plein, et que c'est pas une maladie, c'est juste quelque chose à réussir à gérer et à doser finalement. Et ça, ça a été aussi une étape de ma vie assez compliquée, mais que aujourd'hui je gère avec beaucoup de recul et beaucoup de simplicité.
C'est le sport finalement, c'est le hand press qui t'a fait te rendre compte de ça.
Bien sûr, ben je pense que j'aurais pas eu aussi toutes ces émotions sans le handball, donc j'ai pu découvrir qui j'étais. Je pense que c'est vraiment ça, le handball m'a fait découvrir qui j'étais.
On dit souvent que dans le sport de haut niveau, il faut être dur, il faut pas avoir d'émotions, faut savoir justement gérer tout ça, ne pas réfléchir, j'ai envie de dire, à certains moments. Toi, c'est tout l'inverse.
Ouais. Ouais, j'ai plutôt... Alors, réfléchir, non, mais j'ai besoin de jouer avec mes émotions parce que c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Et j'ai toujours dit, de toute façon, que le jour où je ne ressentirai plus d'émotions en jouant au handball, j'arrêterai parce que, pour moi, ça sera le moment où il faut dire stop. C'est ce qui m'anime au quotidien. C'est justement ce partage d'émotions, que ça soit positif ou négatif, qui me font vibrer tous les jours. Et c'est pour ça que je vais m'entraîner tous les jours et que... Des fois, c'est difficile de se lever le matin et de se dire « punaise, on a mal au corps ». Mais en fait, c'est justement ces émotions-là qui me disent « mais je veux continuer à aller m'entraîner, je veux galérer, mais je le fais parce que ben, les émotions que j'éprouve, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont hyper enrichissantes, elles sont magnifiques, quoi. »
Est-ce que tu dirais même presque maintenant que ton hypersensibilité, c'est un atout dans ton sport ?
Maintenant que j'ai appris à le gérer, oui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant que je sais le gérer et que j'arrive à l'accepter, oui, maintenant, c'est devenu une force.
Comment tu le gères concrètement ? Par exemple, c'est vrai, en prenant un exemple, après votre quatrième place sur les derniers championnats, qui était une vraie déception, je crois que tu avais été très affectée à ce moment-là. Comment tu fais pour te remobiliser ? Comment tu fais pour ne pas presque sombrer dans la tristesse ?
J'accepte déjà que on peut pas toujours gagner. Être sportif de haut niveau, c'est aussi savoir.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Perdre, même si ça fait mal, sur le coup, effectivement, par contre, je suis débordée d'émotions et c'est très dur. À chaque défaite, de toute façon, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Mais en fait, je relativise en me disant... c'est ça la vie. La vie, c'est de se relever après un échec et je m'alimente finalement de ça en me disant si je veux gagner la prochaine fois, il faut que je me relève. Il faut que je me relève très vite parce que plus vite on se relève, plus vite on retourne au travailler, apprendre de nouvelles choses pour justement performer la prochaine fois. Et je pense que ouais, j'ai appris vraiment ce que c'était d'être sportive de haut niveau au moment où j'ai accepté. De tomber pour me relever encore mieux.
C'est ça qui fait la différence maintenant. C'est pour ça qu'à partir de 2017, finalement, Olivier Crumbles, votre entraîneur, a décidé de te prendre et de plus te lâcher parce qu'après, tu as fait partie de toutes les sélections.
Oui, exactement. J'ai commencé en 2016 la compétition, les championnats d'Europe qui ont suivi les Jeux Olympiques. J'ai été sélectionnée et depuis, j'ai plus quitté cette équipe de France. J'ai même eu une petite promotion. J'ai changé de poste entre-temps. Depuis les Jeux Olympiques de 2021, je suis passée sur la base arrière, ce qui m'enchante encore plus, mais c'était des responsabilités bien plus importantes quand il m'a annoncé avant les Jeux Olympiques, tu feras les Jeux Olympiques arrière. Je l'ai regardé, je lui ai demandé si c'était une blague. C'était tout ce que j'attendais, mais peut-être pas juste avant les Jeux Olympiques. J'ai un peu paniqué. Je me suis dit, mon Dieu, c'est un rôle, c'est pas la même chose de jouer arrière ou ailière, c'est pas les mêmes responsabilités. Je vais essayer d'assumer ça, mais du coup, c'est se montrer encore plus, être encore plus à la lumière parce que clairement, dans le monde du handball, il faut dire la vérité, les arrières sont beaucoup plus mis en avant que les ailières parce qu'elles touchent beaucoup plus la balle. Ouais. Moi, je me suis dit, oulala, je vais devoir assumer ça. En plus de ça, j'ai fait quand même de bons Jeux Olympiques. Donc, au retour des Jeux Olympiques, j'ai eu pas mal de médias. Bah, alors là, c'était la panique à
Parce
bord.
En plus, aux Jeux Olympiques, tu as été élue meilleure élire.
Oui, meilleure élire. Ça, c'était
droite,
assez... c'était assez fou. J'ai joué peut-être une demi-heure sur toute la compétition à l'aile, mais j'ai été meilleure élire. J'ai pris quand même ce titre avec beaucoup de bonheur. Mais c'est vrai que le retour a été... plutôt difficile par rapport à justement ma timidité et le fait que je sois introvertie parce que les médias se sont enchaînés et c'est la partie que j'aime pas finalement dans le sport de haut niveau, c'est de devoir après parler aux journalistes et tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'ai dû assumer justement ce nouveau statut forcément en plus avec la médaille olympique, il a dû j'ai dû faire du travail sur moi-même, mais que j'ai réussi grâce à tout ce que j'avais déjà entrepris avant. J'ai pu passer au-dessus et prendre même par moment du plaisir à répondre aux journalistes qui je ne pensais pas que ça allait arriver un jour quand même.
Bah, tu vois, on est en train d'enregistrer un podcast aujourd'hui.
Exactement.
Bah, je te pose quand même beaucoup de questions.
C'est vrai, mais j'ai évolué, voilà, c'est une preuve.
Et justement aussi, on parlait de toi de façon personnelle et introspective, mais tu es quand même dans un sport qui est un sport collectif, donc tu es sans cesse en interaction avec d'autres joueuses dans l'équipe, que ce soit en club ou en équipe de France. Toi, en tant que timide, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu te cachais, toi, ce que tu n'aimais pas, c'était justement les interactions, devoir parler, les discussions avec les autres. Comment tu as géré cette partie-là, qui est une énorme partie de ton sport ?
Je ne l'ai pas géré, je pense. Vraiment, j'ai laissé les choses se faire assez naturellement, particulièrement en équipe de France, où à un moment donné, on m'a demandé de prendre un peu plus la parole en me disant « Laura, aujourd'hui, tu es devenue un cadre, il faut que tu prennes la parole, il faut que tu te montres, il faut que tu donnes ton avis. » Et c'est vrai que quand on m'a dit ça, je dis « Mais c'est pas... Non, je suis là sur le terrain, il n'y a pas de souci. » Mais par contre, me demander rien d'autre. Et finalement, au fur et à mesure que j'ai pris de l'importance peut-être dans l'équipe, je me suis sentie plus à l'aise, plus écoutée. Et en fait, naturellement, j'ai commencé à prendre la parole, mais ça fait pas très longtemps non plus quand même. Mais voilà, j'ose un peu plus prendre la parole, donner mon avis. J'ai accepté que j'allais sûrement mettre plus de temps qu'une autre, mais qu'il fallait que je m'écoute parce que de toute façon, si je me mettais à parler alors que j'étais pas prête à le faire et que j'y arrivais pas, j'allais me renfermer sur moi-même et j'allais retomber quelques années avant. Donc, je me suis dit, prends ton temps. Alors, j'ai essayé de donner mon avis un peu à une ou deux joueuses en petit comité, mais c'était déjà mieux que rien. Et après, au fur et à mesure, j'ai réussi à prendre la parole devant tout le monde.
Ça t'a jamais joué des tours, même en... C'est vrai que c'est un sport collectif et c'est un sport où vous êtes, entre guillemets, remplaçable. Ce qui peut aussi créer une sorte de concurrence, de pression aussi supplémentaire. Ça, c'est quelque chose qui t'a déjà atteint ?
Non, alors je ne sais pas si c'est une chance, mais sur mon poste en équipe de France, j'ai toujours été avec des filles incroyablement incroyables. vraiment, quand je vois finalement à tous les postes en équipe de France, j'en vois pas une... qui ne l'aurait pas fait, mais vraiment, j'ai été épaulée à chaque fois, à chaque stage. Dès mon arrivée, j'étais en plus avec sur des postes où il y avait des filles qui avaient je ne sais plus combien de sélections à leur actif. Donc, elles m'ont pris sous leur aile, elles m'ont accompagnée. Elles ont, je pense, très vite cerné le genre de personne que j'étais. Donc, elles m'ont beaucoup, beaucoup aidée aussi là-dedans.
C'est un sport qui a l'air plutôt bienveillant, je trouve.
Ben, en tout cas, moi, je l'ai vécu de façon très bienveillante.
Est-ce que ça a été lié pendant longtemps aussi au manque de légitimité ? Tu vois, tu parlais tout à l'heure de quand j'ai senti qu'on me donnait de plus en plus de place, que je prenais de plus en plus de place, j'ai pris la parole.
Mmh. Oui, bah, pendant aussi longtemps, moi, j'ai cru que j'étais pas légitime de parler, j'étais pas légitime de donner mon avis. Et finalement... dans un sport co, du moment où on t'appelle dans une équipe, c'est qu'on te veut et que t'es légitime à parler. Et ça, j'ai mis très longtemps à le comprendre. Qu'en équipe de France, du moment où t'es sélectionné, c'est qu'on te fait confiance, tu mérites ta place. Et moi, pendant longtemps, je pensais que je méritais pas ma place et que j'étais pas légitime d'être d'être là où j'étais.
Pourquoi ?
C'est une bonne question. Je cherche encore la réponse aujourd'hui. Je me suis toujours posé cette question-là. En plus, pourquoi je pensais ça de moi, et j'ai jamais trouvé la réponse.
C'est quelque chose qui reste encore à creuser.
Ouais, j'aimerais bien comprendre pourquoi j'ai été comme ça. Après, je sais que ma timidité est aussi et mon côté introverti, c'est aussi dû à mes frères qui ont pris beaucoup beaucoup de place dans ma jeunesse. J'ai pas de soucis avec ça, mais voilà, c'était j'ai trois grands frères qui aiment beaucoup parler, qui ont la tchatche facile, donc c'était pas évident dans mon enfance de réussir
d'en placer
à en placer une. Exactement. Encore aujourd'hui, hein, mais j'essaye de m'imposer un peu plus. Mais non, bon, ils sont. J'adore mes frères et j'ai aucun souci avec eux, parce que si jamais ils écoutent, pas qu'ils pensent que je suis en train de les détester ou quoi que ce soit. Non, loin de là. J'aime beaucoup la relation que j'ai avec eux, mais c'est vrai que ouais, ils ont la tchatche. Ils sont vraiment pour le coup l'opposé de moi de ce côté-là, mais ils ont pris beaucoup de place dans la famille, au repas de famille, et je pouvais rarement en placer une. Donc je pense que c'est ce côté aussi qui m'a fait me renfermer sur moi-même et ne pas oser finalement prendre la parole de peur de déranger.
Est-ce qu'il y a aussi un truc où je trouve ça toujours intéressant quand tu viens d'une famille de sportifs justement aussi, et en l'occurrence qui ont fait le même sport que tu pratiques toi, de montrer que encore une fois, cette notion de légitimité, mais regardez, vous avez fait ça, ton père, il était entraîneur, donc forcément aussi, il a une certaine exigence, j'imagine, et un regard par rapport à ta carrière et par rapport à ce que tu fais, de montrer que tu mérites ta place aussi dans le cadre familial, quoi.
Ouais, après, mes frères n'ont pas tous fait du handball, mais bon, ils le disent toujours, mes frères ne font que me rappeler que je suis la préférée de notre père, juste parce que j'ai fait des titres dans le handball. Donc ça, j'ai le droit à chaque repas de famille. Mais non, après, c'est sûr que c'est pas évident tous les jours d'avoir des parents qui connaissent bien le sport qu'on fait, parce que après chaque match, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ça, oh là là, c'était chiant. Mais bon, aujourd'hui, maintenant, ça va mieux, ils me le font pas tous les matchs, déjà c'est déjà mieux. Mais non, c'est pas évident tous les jours de vouloir finalement satisfaire les parents dans un sport qui connaissent le nombre de fois où je leur ai déjà sorti, j'aurais bien aimé que vous connaissiez rien au handball, comme ça je serais tranquille. Mais bon, ça a été un soutien sans faille, donc je peux pas les critiquer par rapport à ça. Je pense que des fois je me dis quand j'aurai des enfants, s'ils font du handball, est-ce que je serai pas pareil? Et pourquoi t'as pas fait ça? Donc je me dis, je veux pas trop les critiquer, parce que je sais pas comment je serai si mes enfants. Le mieux, ce serait qu'ils fassent pas de handball. Comme ouais, ça, c'est ça. Réglé.
Tu vas les pousser à faire tous les sports.
C'est l'enfer, parce qu'en plus, vu que mon copain fait aussi du handball, ils seront mais dans une famille l'enfer. Vraiment, je souhaite pas être mes enfants.
Et aujourd'hui, comment tu qualifierais ton état d'esprit vis-à-vis de ta carrière, vis-à-vis de ta place au sein de l'équipe de France?
Je sais même pas. Ma carrière, elle est magnifique. Vraiment, je pense que j'ai la chance de pouvoir me dire que si demain elle doit s'arrêter, j'aurais vécu tout ce que j'ai à vivre. Il me manque la Ligue des Champions, c'est sûr. Mais, mais finalement, combien ont gagné la Ligue des Champions? Souvent, c'est toutes celles qui ont gagné la Ligue des Champions n'ont pas tous les titres en équipe nationale, à part Amandine Ledo, que je respecterai à vie pour ça. Non, pour
Doudou.
Mais ouais, c'est ça, Doudou. Pour plein d'autres choses, je la respecte avant tous les titres qu'elle a eus. Mais c'est vrai que c'est le Graal d'en plus gagner la Ligue des Champions. Mais j'ai une carrière qui juste est incroyable. Et puis en plus, j'ai pas mis longtemps à gagner tous les titres, vraiment. Le premier en 2017, le dernier en 2021. Il s'est pas passé beaucoup d'années entre tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui attendent des années et des années pour réussir à avoir un titre. Moi, première participation aux Jeux Olympiques, je suis championne olympique. Première participation à un championnat du monde, je suis championne du monde. Deuxième participation à un championnat d'Europe, je suis championne d'Europe, mais en France en plus. Donc, non, vraiment, j'ai une carrière incroyable. Je m'en rends compte, mais surtout, là où j'ai du respect, entre guillemets, pour ma carrière, c'est surtout par rapport à ce qu'elle m'a permis d'être aujourd'hui en tant que femme. Elle m'a fait grandir et c'est ce qui aujourd'hui me rend le plus fière, c'est d'avoir pu passer au-dessus de choses auxquelles je pensais pas réussir à passer au-dessus et finalement ma carrière m'a permis de le faire.
Quel est le regard justement que tu portes sur la Laura Flip actuelle ?
Quelqu'un qui a beaucoup plus confiance en elle. Je dirais pas que j'ai confiance en moi à 100%, mais j'ai évolué là-dessus et je pense que je vais encore évoluer. Mais aujourd'hui, en tant que femme, j'ose faire les choses comme j'en ai envie et pas dire mais j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur que ça soit pas bien. Aujourd'hui, je fais et puis après, on verra bien.
C'est bien.
Oui.
Bravo.
Ça fait du bien.
Non, mais bravo. Et je trouve ça hyper inspirant, justement, d'entendre ce genre de discours, parce que c'est pas les discours qu'on entend souvent dans le sport de haut niveau. Ouais. Et qu'est-ce que t'as envie de dire, justement, à des petites filles qui sont hyper timides, qui se disent qu'elles y arriveront jamais parce qu'elles ont pas les capacités, alors qu'elles ont la passion et la flamme?
Qu'il faut qu'elles s'accrochent parce que c'est des périodes difficiles, mais voilà, l'essentiel, finalement, et surtout quand elles sont encore petites et jeunes, il faut se faire plaisir parce que finalement, c'est ce qui m'a permis de continuer à me construire et à continuer le handball, ce qui m'a ouvert des portes derrière. Mais c'est que je gardais à l'esprit que je faisais ça aussi pour le plaisir, pour m'éclater. Et je me suis rattachée à ça pendant quand même beaucoup d'années avant de me rendre compte que pour en faire un métier, c'est pas que du plaisir tous les jours. Mm-hmm. Il faut se l'avouer, hein, on se fait pas plaisir tous les jours. Mais dans un premier temps, c'est clairement ça. Et que finalement, même si on n'a pas confiance en soi, on peut se faire plaisir sans aucun problème en jouant handball ou en faisant n'importe quelle autre activité.
Mmh. Voilà, à toutes les petites filles, dont j'ai fait partie aussi également quand j'étais petite, qui n'avaient pas confiance en elles, qui étaient timides et qui n'osaient pas prendre la parole, je trouve que t'es un beau modèle, quoi. Donc bravo pour ça et bravo pour ce discours. Et qu'est-ce que t'attends maintenant de ta carrière de sportive ?
De gagner encore.
C'est vrai que ça c'est aussi. Bon, c'est un autre sujet, mais quand on a tout gagné comme ça, on arrive à garder la hargne et l'envie.
Ouais, je pense que on l'a toujours, mais encore plus dans ma situation aujourd'hui. Il y a Paris 2024 dans un an, donc forcément on a toujours envie de gagner pour juste encore plus à domicile. Donc c'est une motivation qui permet d'alimenter justement cette envie.
Ça met des pièces dans le
exactement
dans la machine.
Je dis pas que si c'était ailleurs j'aurais pas l'envie de gagner, mais particulièrement en France on a tous envie, tous les Français ont envie de faire une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et aussi voilà, je pars pour un nouveau challenge cet été. Je pars en Roumanie.
Ouais.
J'aurais peut-être la chance de gagner la Ligue des Champions.
Cette fameuse Ligue des Champions.
Voilà, je vais retrouver la Ligue des Champions. Donc forcément, je me dis allez, j'en ai plus qu'un à aller chercher. J'ai envie de tout donner pour y arriver. Et on fera le bilan à la fin de mes deux années en Roumanie si je peux partir et arrêter ma carrière n'importe quoi en me disant j'ai tout gagné.
Ça d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je trouve que c'est un sujet qui est aussi hyper intéressant. C'est-à-dire que dans le sport de haut niveau, tu es amené à beaucoup bouger. Émotionnellement parlant, c'est des changements, c'est des déracinements, devoir retrouver des ancrages dans des villes que tu connais pas forcément, dans des langues que tu ne parles pas forcément. Comment on le vit ça émotionnellement ?
Mal. Mal. Non, ça va. J'ai fait le choix de partir en Roumanie difficilement. Disons que j'ai déjà eu des propositions auparavant pour partir à l'étranger. J'étais pas prête, clairement, à partir. Je ne maîtrise pas très bien l'anglais. Mm-hmm. Je suis très famille. C'est vrai que pour moi, c'est une grande décision et un cap que je vais franchir cet été en partant à l'étranger. Je pensais pas le faire finalement dans ma carrière, même si au fond de moi c'était un rêve de tenter une expérience à l'étranger. Mais au fur et à mesure de ma carrière, je me suis dit, je vais peut-être pas y aller, c'est pas grave. Mais j'essayais de me rassurer en me disant que c'était pas grave, j'avais d'autres projets. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours alimenté de vouloir tester l'étranger et voir ce que ça allait donner. J'ai la chance de pas partir toute seule. J'ai mon copain et mon chien qui viennent avec moi et c'est, je pense, ce qui m'a permis de franchir le cap, c'est de me dire que je pars pas toute seule, ouais. Et j'aurai un soutien sans faille en Roumanie aussi. Je pense c'est vraiment ça qui m'a aidée.
Est-ce que tu dirais que c'est aussi justement toute cette évolution qui ont fait que tu es arrivée à ce point-là, qui te permet enfin de partir et de passer le pas?
Oui, je pense que le fait d'avoir beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui, je me dis, mais vas-y, vis ton rêve, va à fond, c'est bientôt fini. On sait que carrière de sportif de haut niveau, ça ne dure pas éternellement. J'ai pas envie d'avoir de regrets. Mmh. J'étais prête à avoir des regrets parce que j'osais pas franchir le cap, je pense.
Ah, t'étais prête à sacrifier presque cet aspect.
Je pense, mais aujourd'hui, je suis pas prête à le faire. J'ai ouais. envie de vivre tout ce que je peux vivre pendant ma carrière et après, on fera le bilan tranquillement plus tard. Mais si jamais je pleure tous les jours, je serai vite revenue en France. C'est pas un souci. Mais par contre, si je signe pas là-bas, je savais que je pourrais pas revenir sur cette décision n'importe quand dans l'année. Donc je me lance et puis on verra bien ce qui se passe après.
Émotionnellement, est-ce que tu le vois presque maintenant plus comme des défis plutôt que des contraintes?
Ouais, je vois clairement ça comme un nouveau défi et je me dis et au pire. Mmh. Et au pire, ça se passe mal. Alors, je suis hyper stressée parce que je parle toujours pas anglais. Je prends des cours un petit peu par-ci par-là, mais je me dis que en fait, maintenant, il y a tellement de filles qui sont parties sans parler un mot d'anglais. Moi, au moins, je parle quelques mots, ça devrait aller. Mais je me dis qu'en entendant ça tous les jours de la semaine, il y a bien un moment donné où je vais réussir à parler. Donc, et puis bon, je serai dans mon coin, c'est pas très grave si je parle pas. J'aurai une excuse pour pas parler.
Ah non, Laura, justement.
Ah non, c'est pas ça. C'était tout le but du podcast, c'est de justement montrer que je suis mince. Je retire ce que j'ai dit. Non, mais je vais prendre sur moi. Ça sera difficile les premières semaines, peut-être les premiers mois, mais voilà, j'ai aussi la chance d'avoir d'autres Françaises dans l'équipe qui vont, j'en suis sûre, m'aider. Si elles entendent ça, je suis pas sûre qu'elles vont m'aider, mais grâce, c'est pour toi cette petite aparté. Mais non, je suis persuadée qu'elles vont être là pour moi et qu'il y a aucune raison finalement que j'y arrive pas.
Est-ce que t'es fière de toi?
Ouais, je pense que aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de moi, de ce que j'ai fait, de ce que je suis devenue. Je pense que je peux le dire.
Bravo. Une dernière petite question pour la route. Ça y est, le supplice s'arrête, non?
Oula, qu'est-ce que ça va être la dernière question?
C'est la dernière question que je pose toujours à mes invités, qui est: oula. Si tu devais donner la définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que tu dirais?
Je pense que c'est quelqu'un qui croit en soi et qui se bat pour atteindre ses objectifs. Pardon.
Et pas forcément quelqu'un dans la force et dans la...
non, je pense que c'est juste quelqu'un qui va se battre pour faire ce qu'elle a envie de faire.
Très bien. Mais merci beaucoup, Laura, pour ce moment. Merci aussi de montrer que ce qu'on pourrait croire comme des faiblesses et des fragilités, finalement, ne le sont pas et permettent aussi de construire des très belles carrières. Je trouve que c'est un beau message et qu'on a besoin de l'entendre aussi plus souvent. Et que ces fragilités, cette émotion peuvent justement avoir plein d'aspects positifs et qu'il faut savoir vivre avec. Et en tout cas, je trouve que tu en as un très bel exemple.
Merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir parlé de ça. Finalement, c'est la première fois que j'en parle autant. Je suis très contente d'avoir eu l'occasion d'en parler et de montrer que finalement... c'est pas être sportif de haut niveau, c'est pas un long fleuve tranquille et que parfois, même en n'ayant pas confiance en soi au début, on peut l'avoir au fur et à mesure.
On peut être timide, ne pas avoir confiance en soi, être hyper sensible
y arriver.
Et tout gagner. Et ça, je trouve que c'est quand même un beau message.
Ouais, vraiment.
Et c'est un beau modèle aussi pour les futures générations et même au-delà. Donc, bravo pour ça.
Merci à toi.
Et puis, je vous souhaite de gagner Paris 2024 parce que...
J'espère.
Et la Ligue des Champions.
Oui, je vais tout faire pour les deux.
Merci beaucoup, Laura. Et puis écoute, à très bientôt.
À bientôt.
Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.